Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Que vous soyez riche ou pauvre, heureux ou malheureux, que vous soyez rassasié ou que vous ayez faim, que vous soyez joyeux ou triste, que vous soyez seul ou en famille, que vous ayez la foi ou que vous doutiez, que chacun de vous se sente ici chez lui pour ce moment où nous voulons nous mettre en présence de Dieu, écouter sa parole et la méditer. Pour ouvrir ce culte, nous prendrons la liturgie qui se trouve à l'entrée des recueils du psautier français, dans les premières pages. Réjouissons-nous au Seigneur, je vous invite à vous lever. Prenez place. Bienvenue à chacun et chacune dans ce temple, mais aussi à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais du site internet pour ce culte du dernier dimanche de l'année 2020. Nous saluons particulièrement les amis qui nous rejoignent de divers pays. Merci de votre présence fidèle et de votre soutien. Merci à Alexandre Korovitch, organiste à l'Oratoire du Louvre, qui accompagne ce culte aujourd'hui. Il était annoncé un baptême, mais en fait il est différé à une date ultérieure. Je voudrais associer à ce temps de culte les familles, les personnes éprouvées actuellement par le deuil de leurs proches en cette difficile période de pandémie. 2020 fut une année inédite pour nous tous, que nous avons vécu en dehors de nos habitudes, avec des activités paroissiales, ecclésiales, également au niveau de l'entraide, que nous avons été obligés de suspendre ou de réinventer sous un nouveau format, avec des relations familiales, amicales, scolaires, professionnelles que nous avons été obligés de vivre à distance. Des loisirs, des pratiques sportives, des rendez-vous culturels, des sorties conviviales qui ont été interrompues. Et malgré cette trêve de Noël, cette période chaotique n'est pas terminée. Nous n'aimons pas les incertitudes. Elles génèrent de l'angoisse. Pourtant, il va falloir, sans aucun doute, nous armer de patience, mais aussi de bienveillance. Redoubler d'imagination pour l'année nouvelle encore inconnue. Mais nous sommes ensemble, malgré la distanciation physique. Ce moment de culte, comme ceux qui sont passés ou ceux qui viendront, nous permet simplement de faire une halte dans nos interrogations, de reprendre des forces pour continuer, de retrouver un élan vital pour construire de nouvelles fraternités et nous soutenir réciproquement dans les situations difficiles. Ce culte est simplement un signe extérieur d'espérance. Louons Dieu. Ô Dieu, notre Père, tu es source intarissable de toute vie. Sans toi, nous ne serions que poussière. Nous chantons à ta gloire la vie que tu nous as donnée. Ô Dieu, notre Père, tu es source intarissable de tout bien. Sans toi, nous serions sans espérance. Nous chantons à ta gloire le jour nouveau que tu nous offres. Ô Dieu, notre Père, tu es source intarissable de toute grâce. Sans toi, nous serions vides et asséchés, incapables de recevoir et d'offrir. Nous chantons à ta gloire la joie que tu nous donnes en Jésus-Christ d'aimer et d'être aimé. Ô Dieu, notre Père, nous te louons et nous te chantons. C'est ainsi que je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume numéro 8, psaume numéro 8 que vous trouverez dans le psautier français. Et de ce psaume, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Écoutons maintenant ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Ainsi parle le Seigneur. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître et de savoir que je suis le Seigneur. Prions ensemble. Éternel, viens à notre aide. Que se lève sur la dureté de notre cœur la douceur de ton visage. Que se lève sur la folie de notre orgueil l'humilité de ton cœur. Que se lève sur la tristesse de nos fautes la joie de ton pardon. Que se lève sur le sommeil de notre mort la clarté de ton éternité. Que se lève sur notre esclavage la liberté des enfants de Dieu. Que se lève sur notre angoisse la paix de ton amour. Éternel, nous te le demandons, viens à notre aide, que partout dans le monde s'accomplisse ta promesse. Nous avons confiance en toi et tu nous exauces bien au-delà de ce que nous attendons. Nous te rendons grâce pour ton pardon en Jésus-Christ. Amen. Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, et croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous a délivrés du péché. Que sa paix sans mesure pénètre nos cœurs. Que la joie rayonne chaque jour de notre vie. Amen. Chantons à Dieu notre reconnaissance. En pensant maintenant à l'année qui se termine, je vous propose cette confession de foi qui nous vient de la communauté de Pomerol. Ô Dieu, tu m'as toujours donné le pain du lendemain, et bien que pauvre, aujourd'hui je crois. Tu m'as toujours donné la force du lendemain, et bien que faible, aujourd'hui je crois. Tu m'as toujours donné la paix du lendemain, et bien qu'angoissée, aujourd'hui je crois. Tu m'as toujours gardé dans l'épreuve. Et bien que dans l'épreuve, aujourd'hui, je crois. Tu m'as toujours tracé la route du lendemain. Et bien qu'elle soit cachée, aujourd'hui, je crois. Tu m'as toujours éclairé dans mes ténèbres. Et bien que sans lumière, aujourd'hui, je crois. Tu m'as toujours été l'ami fidèle. Et malgré ceux qui trahissent, aujourd'hui, je crois. Tu as toujours accompli tes promesses. Et malgré le doute et l'incertitude du moment, aujourd'hui, je crois. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Prenez place. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, nous lirons aujourd'hui ce passage situé entre les versets 21 et 40. Huit jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve, âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, nous prendrons maintenant le numéro 99. Cantique Louanges et prières, numéro 99, dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever. Prenez place. Prions. Éternel, par ton esprit, enracine-nous, enracine-moi dans la parole que tu me dis en ton Fils. Enracine en moi, en nous, cette parole qui est oui, qui est amour. Et ainsi, donne-nous, donne-moi le courage de la liberté le courage de mes choix, le courage de me tenir droit, le courage d'être moi, comme tu veux que je le sois, avec ton Fils, Jésus le Christ. Amen. Amis, frères et sœurs, nous poursuivons la lecture des récits de la naissance de Jésus, le Christ. Et depuis quelques dimanches, nous cheminons entre deux évangiles, entre celui de Matthieu et celui de Luc. L'histoire que nous venons d'entendre se situe dans l'évangile de Luc et il nous raconte la présentation de Jésus au temple de Jérusalem. Et ce récit clôt, sur le plan liturgique, les récits de la Nativité. Ce texte enracine Jésus dans le judaïsme et il ouvre la mission du Christ au monde entier. En venant présenter Jésus au temple, ses parents, Joseph et Marie, obéissent à la loi de Moïse. En y rencontrant Siméon puis Anne, les deux personnes âgées de notre histoire, deux prières de reconnaissance sont prononcées. En contemplant cet enfant, Siméon rend grâce à Dieu de ce que ses yeux ont vu le salut de Dieu, préparé devant les peuples, lumière des nations et gloire d'Israël. Anne, de son côté, dit publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parle de Jésus à ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Puis le ton change dans la prière de Siméon au milieu des paroles de bénédiction et du rituel d'action de grâce. D'autres paroles plus graves, voire menaçantes, sont prononcées. Des mots inquiétants surgissent comme chute, relèvement, épée, transpercée. Et cette phrase, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. De quoi Siméon est-il en train de parler? Et puis d'abord, qui sont-elles ces personnes? La première personne, c'est donc un homme, Siméon, et il ne semble n'avoir aucune fonction précise dans le temple. Il réside seulement à Jérusalem. Il est décrit comme un homme juste, pieux. C'est-à-dire qu'il possède deux qualités chères au livre du Premier Testament. Car être juste, dans la Bible, c'est s'ajuster ou être ajusté à Dieu. C'est suivre sa volonté en la travaillant assidûment au travers des textes de la loi et des textes prophétiques. Siméon attend la consolation d'Israël. Ce qui rappelle les premiers versets du chapitre 40 au livre d'Ésaïe. « Consolez, consolez mon peuple. » Le terme de consolation se rapporte au temps espéré où Dieu viendra sauver, délivrer son peuple. C'est ce que nous appelons le salut. Et Siméon symbolise ici l'attente messianique des croyants d'Israël. C'est poussé par l'Esprit Saint qu'il se rend au temple de Jérusalem pour y rencontrer cet enfant et ses parents. Siméon se situe dans la continuité du prophète Ésaïe. Il espère en un Messie promis par Dieu et annoncé par les prophètes. Il continue d'espérer courageusement. Siméon incarne la foi d'Israël, une foi chevillée au corps qui ne laisse de place ni aux doutes, ni aux interrogations, et encore moins le temps passant au relâchement. Siméon est profondément ancré dans sa foi. Il est décrit comme ayant cette relation intime avec Dieu par la mention de l'Esprit Saint. Il a cette conviction qui lui est révélée par l'Esprit qu'il ne mourra pas avant d'avoir vu le Messie. Et tant que cela n'était pas arrivé, cette promesse a fait tenir Siméon en vie. Mais imaginons un court instant que cet homme si âgé soit mort tout de même sans avoir vu le Messie. Il serait mort dans la foi, c'est-à-dire qu'il serait mort en ayant confiance que la promesse se réaliserait plus tard et d'une autre façon. C'est quelque chose de l'ordre de la confiance absolue. Mais dans les évangiles, nous sommes dans le contexte de l'accomplissement des promesses. Alors, Siméon est ce premier témoin de l'accomplissement en marche. L'enfant présenté comme le Messie attendu exauce l'attente de Siméon. C'est d'ailleurs la signification de son nom, Dieu a exaucé. Il peut donc mourir en paix. L'autre personne, c'est une femme, Anne, désignée dans ce texte comme étant une prophétesse, une porte-parole de Dieu. Et le texte nous précise son âge, 84 ans. Alors, c'est-à-dire qu'elle a 7 fois 12 ans. Je l'avais dit une fois dans une autre prédication. Et dans la symbolique biblique des nombres, le chiffre 7 suggère la perfection et le 12, l'universalité. Et par cette précision, on peut donc deviner que Anne représente parfaitement les croyants de son peuple qui attendent la délivrance à Jérusalem. Anne représente la patience et la fidélité soutenues par une prière constante, ainsi qu'il est écrit. Elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Néanmoins, Anne arrive au temple en même temps que Siméon et témoigne de sa reconnaissance envers Dieu pour la présence de cet enfant. Mais il nous faut revenir sur les paroles graves prononcées par Siméon et qui constituent le cœur même du récit évangélique de Luc. Après les paroles de reconnaissance, après la confession de foi, si j'ose dire, voici maintenant l'oracle de Siméon. Adressées directement à Marie, ces paroles sont dramatiques avec l'allusion à l'épée, la division, la chute. Devant Jésus, plus tard, il faudra ouvertement prendre parti, pour ou contre. Et Siméon est un sage. Il interroge déjà les certitudes des hommes sur Dieu et sur le monde. Il prévient déjà que le signe que constitue le Messie sera contesté. Et ces paroles de Siméon revêtent un caractère prémonitoire, mais en fait, il s'agit d'une relecture en forme d'oracle de ce que l'évangéliste Luc a expérimenté dans sa propre foi, dans sa propre rencontre en tant que disciple du Christ. Rappelons-nous encore, toujours, que l'évangile est écrit en différé. C'est un après-coup, autrement dit, nous sommes après Pâques déjà. Le Nouveau Testament est écrit dans la foi de Pâques et Jésus, reconnu comme le Messie, est le salut offert à tous et non seulement en Israël. Cette ouverture à l'universel, pourtant déjà annoncée par le prophète Ésaïe, a demandé du temps pour s'imposer à l'intérieur des premières communautés chrétiennes. Jésus est la lumière qui éclaire les nations païennes, c'est-à-dire les nations autres qu'Israël, tout en étant aussi la gloire d'Israël. La gloire. Ce mot si difficile à expliquer, à traduire, parce que dans la tradition biblique, il évoque le poids, la lourdeur, particulièrement suscitée par ce récit de la présentation de Jésus au temple. Avec Jésus reconnu plus tard comme le Christ, étymologiquement celui qui est oint, autrement dit choisi, ou encore habité par Dieu, ce sera difficile de savoir comment rester fidèle à Dieu. Le monde juif sera partagé, surtout le monde religieux, parce que le Christ lui-même sera reconnu par certains et rejeté par d'autres, d'où l'allusion à la division. Parce que Jésus, une fois devenu homme, bouleversera le concept de Dieu. Par ses actes et ses paroles, Jésus le Christ permettra aux hommes de penser Dieu autrement. Sa prédication sera celle d'un appel constant à la vie contre toutes les puissances de mort. Ce sera celle d'un combat contre tout ce qui déshumanise l'homme, mais aussi le monde. Et là, je cite Raphaël Picon lors de un de ses éditoriaux pour le mensuel Évangile et Liberté. Il dit « Jésus, au fond, sera celui qui incarne au plus près une compréhension de Dieu et une foi en Dieu qu'aujourd'hui encore nous croyons portée par Dieu lui-même. » Au moment où l'année 2020 va se refermer, alors que 2021 se profile à l'horizon avec son cortège d'épreuves tout aussi inquiétantes, prenons le temps de faire le point avec nous-mêmes. Nous ne savons pas de quoi demain est fait, mais il nous faut avancer tout de même. Chacun à notre manière, nous avons foi en les promesses de Dieu. Mais comment notre foi s'ancre-t-elle encore maintenant, y compris dans l'adversité? Sans être aussi parfait que Siméon et Anne, c'est à nous aujourd'hui de prendre la mesure de notre espérance. À nous, comme à ceux qui nous ont précédés, il nous faudra recevoir le courage de notre espérance. Et c'est bien à cela que nous avons été appelés au cours de cette difficile année 2020. Au courage de dire notre espérance, nous avons été appelés au courage de résister aux discours morbides et angoissants, également au courage de regarder la situation en face. Eh bien, c'est encore à ce même courage que nous sommes appelés pour la nouvelle année qui vient. Malgré le contexte difficile actuel, sommes-nous toujours convaincus que Jésus témoigne d'un Dieu amoureux du monde, qui ne cesse de l'enrichir de nouvelles possibilités et de nous émanciper de ce qui nous aliène? Et je cite encore Raphaël Picon, « Le Dieu qu'incarne Jésus transfigure la réalité pour l'ouvrir à plus de justice, de vérité et de beauté. Ce Jésus que nous avons fêté à Noël n'est pas un Dieu descendu du ciel ou un Dieu devenu homme. Noël fête la naissance d'une nouvelle manière de croire en Dieu. Noël fête le Dieu de l'Évangile. Celui qu'incarne Jésus lorsqu'il nous appelle à devenir humain et à devenir à notre tour, à travers nos solidarités et nos passions pour la liberté, un prochain, un témoin, un Christ pour les autres. » Fin de citation. Avec les différentes célébrations de la fête de Noël, malgré leur caractère obligatoirement intimiste, j'ose espérer, je crois, que nos convictions sortent renforcées, revitalisées, ainsi que notre humanité. Mais pour passer des paroles aux actes, il faut encore ce courage d'être, comme l'écrivait si justement un autre théologien, Paul Tillich. Il faut ce courage de reconnaître ses limites, ses insuffisances, ses manques, ses incapacités, et également son incapacité à se sauver soi-même. Paul Tillich écrivait que la foi est le courage d'accepter d'être inacceptable et d'accepter la bonne nouvelle de l'Évangile, à savoir que Dieu nous accepte quand même. Il faut avoir aussi le courage, comme l'écrit André Gounel dans un article d'une revue de l'Église protestante unie, de se mettre à distance de ce qui est préoccupant, de se souvenir que la réalité ne se réduit pas à ce qui nous épouvante ou sème le trouble en nous. Alors même si les musées ou les restaurants sont fermés, même si les salles de concert, de cinéma et de théâtre ne sont pas encore réouverts, l'art sous toutes ses formes, mais également la pensée, la spiritualité, la contemplation de la beauté, même à distance, nous aide à ne pas être submergés par tout ce qui va mal ou tout ce qui nous fait mal. Il faut apprendre, ou il nous faut apprendre, à nourrir notre espérance d'un monde nouveau, tout en gardant le courage de regarder la situation en face. Dans la Bible, amis, frères et sœurs, le courage du croyant est chevillé à la confiance en Dieu, non pas comme une fuite hors du réel, mais plutôt comme un dynamisme créateur, selon l'expression favorite de certains théologiens du process. Et c'est la pointe même du message évangélique, comme le suggéraient déjà d'autres théologiens comme Wilfred Monod ou Albert Schweitzer. Nous avons, nous aussi, à opérer un changement de regard sur le Dieu de la Bible et sur le Dieu de Jésus-Christ. Nous souvenir que notre foi s'ancre dans un Dieu qui bouge et qui fait bouger. Nos regards se portent aujourd'hui sur Jésus, cet enfant qui a fait bouger Siméon et Anne jusqu'au temple dans leur vieillesse pour y contempler un enfant et y reconnaître en lui toutes les promesses de Dieu. Et comme le dit la confession de foi de l'Église unie du Canada, l'être humain n'est pas seul. Dans les petites choses du quotidien, comme dans les moments de grand péril, l'être humain n'est pas livré à ses seules ressources, il peut compter sur un autre. Sans doute la présence de cet autre avec un grand A passe par la présence et la solidarité de quantité d'autres avec un petit A. Alors que l'enfant de Noël, cet inattendu de Dieu, nous donne ou nous redonne le courage d'espérer chaque jour de notre vie. Et soyez rassurés, il n'est jamais trop tard, puisque de toute façon, ça commence à partir de maintenant. Amen.
Thank you.
Dans le recueil Louanges et prières, nous prendrons maintenant le cantique numéro 100, dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Et je vous invite à vous lever. Prenez place. Alors nous arrivons à ce moment du culte qui est ce moment des annonces. Alors peut-être que je vais laisser la parole à Juliette. Alors Juliette, je pense que tu peux enlever le masque. Oui, parce que tu es au milieu et normalement ça devrait aller comme ça. C'est formidable.
Eh bien, chers frères et sœurs, bonjour. Je réitère les remerciements d'Agnès Aline Schaeffer, notre pasteur, pour vous remercier de votre présence malgré les bourrasques de vent que nous affrontons à Paris et à chacun d'entre vous qui êtes devant votre écran. Merci aussi donc à Aline pour Agnès pour la prédication et à Alexandre Korovitch pour nous avoir accompagnés à l'orgue. Merci aussi à chacun, chacune, d'avoir contribué au bon déroulement de ce culte. Eh bien, pour le programme de la semaine qui vient, donc, nous avons deux moments peut-être à retenir. En tout cas, le premier, c'est celui de dimanche prochain, le culte du 3 janvier, qui sera présidé par Gilles Calsteno. Et puis aussi, une autre date à retenir, le 31 décembre, vous le savez ou je vous l'apprends. Je suis votre trésorière et nous avons une grande préoccupation cette année. Vous savez que donc, nous rencontrons des difficultés d'ordre financier. Et même si vous avez été déjà très généreux et grand nombre, nous avons encore à atteindre notre objectif. D'ici le 31 décembre, c'est la fin de l'exercice comptable. Et d'ici là, donc, vous pouvez encore compléter votre don. Tous les soutiens seront vraiment, vraiment les bienvenus. Donc nous avons mis à votre disposition un certain nombre de moyens de dépôt de vos dons, donc en ligne, par chèque, à l'ordre de la Pérole aux 4 roues du Louvre. Ici même, dans le temple, à la sortie du culte, je me tiendrai à votre disposition avec un terminal de paiement. Et puis voilà, donc j'espère que nous allons vraiment y arriver. Merci pour votre soutien. Voici maintenant le moment de l'offrande. Alors, donc, vous avez aussi un panier connecté qui vous est proposé si vous n'avez pas de monnaie pour remettre votre offrande en carte bancaire sans contact. D'ici là, merci à tous, bon dimanche et très bonne semaine.
Je voulais juste donner une précision. Dimanche prochain, j'assurerai le culte au temple de la rencontre, pour remplacer un de mes collègues qui est absent. Voilà. Donc, que chacun donne selon la décision de son cœur, comme l'a dit si justement Juliette, avec courage, parce qu'il en faut, mais sans chagrin, sans regret ni contrainte. Unissons-nous dans la prière les uns pour les autres. Éternel Dieu de la vie, en ce temps de Noël, nous te prions pour la paix fondée sur ton amour. Que le pardon l'emporte sur les dissensions. Nous te prions pour l'espérance fondée sur ton amour. Nous te prions pour recevoir le courage fondé sur ton amour. Le courage de demeurer fidèle jusqu'au bout. Le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus. Le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de nous. Le courage d'être un peuple pèlerin en route vers l'inconnu, assuré que le chemin n'est pas caché pour toi. Le courage d'être, avec nos différences, le corps du Christ. De sorte que celles et ceux qui souffrent de quelque nom que s'appelle leur souffrance connaissent par notre présence la tendresse du Seigneur. Donne-nous également de vivre le bonheur de ta parole, de la partager avec celles et ceux que tu nous donnes comme frères et sœurs. Et dans le secret de nos cœurs, nous te présentons maintenant celles et ceux qui demandent le secours de notre prière. Et nous voulons te dire simplement merci pour tous ces justes, pour ces prophètes qui ont attendu patiemment, longuement, la venue de ton Messie. Façonne en nous un cœur de justes qui savent s'ajuster constamment sur toi. Et avec ton esprit, comme Siméon et Anne, puissions-nous reconnaître en Jésus le Sauveur et l'espérance de tous. Notre Sauveur et notre espérance à nous. Nous rassemblons notre prière dans celle que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amis, frères et sœurs, voici la bénédiction de Dieu sur nous tous. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous aussi vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Avant que le culte ne soit conclu par le morceau joué par Alexandre, je voudrais simplement vous dire à mon tour, joyeux Noël, nous sommes toujours dans ce temps-là, et je voulais vous le dire du fond du cœur, et plus pratiquement, merci de laisser vos cantiques à votre place. Merci et très bon dimanche à vous.